Trois mois exactement avant l'assassinat Martingale, Mrs. Maxey avait donné un dîner. Des années plus tard, alors que le procès n'était plus qu'un scandale à moitié oublié et que les gros titres jaunissaient sur les pages des journaux tapissant les fonds de tiroirs, Eleanor Maxey se disait que cette soirée de printemps avait été le prologue de la tragédie. Sa mémoire, sélective et perverse, conférait à ce qui avait été un dîner parfaitement ordinaire une aura de prémonition et de malaise. Rétrospectivement, il se muait en une célébration rituelle réunissant victimes et suspects sous un même toit. Or, en fait, parmi ces derniers, tous n'étaient pas présents. Félix Hearne, entre autres, ne se trouvait pas à Martingale ce week-end-là, et pourtant elle le voyait lui aussi à sa table, suivant d'un regard amusé, sardonique, les premières gesticulations des acteurs. À l'époque, bien sûr, la réception avait été à la fois ordinaire et assez assommante. Trois des invités, le docteur Epps, le recteur et Miss Liddell, directrice du Refuge Sainte-Marie pour jeunes filles, avaient dîné trop souvent ensemble pour attendre quoi que ce fût d'inédit ou de stimulant d'une nouvelle rencontre. Catherine Bowers était exceptionnellement silencieuse, cependant que Stephen Maxey et sa sœur, Deborah Risco, dépité de constater que le premier week-end libre de Stephen depuis un mois coïncidait avec une réception, dissimulait mal leur mauvaise humeur. Mrs. Maxey venait d'engager une des mères célibataires de Miss Liddell et la jeune femme servait à table pour la première fois. Mais on pouvait difficilement attribuer la gêne qui pesa tout au long du repas à la présence épisodique de cette Sally Jip qui posait les plats devant Mrs. Maxey et changeait les assiettes avec une adresse notée non sans complaisance par Miss Liddell. Il est probable qu'un des invités au moins était parfaitement heureux. Célibataire, le recteur de Shotfleet, Bernard Inks, accueillait tout ce qui le changeait de la cuisine roborative mais fort peu gastronomique dispensée par sa sœur. Elle n'acceptait jamais l'invitation, avec un soulagement qui laissait peu de place pour les nuances de relations mondaines. Très doux, très effacé, cet homme de 54 ans, et qui paraissait plus que son âge, avait la réputation de ne sortir du flou propice à sa timidité que pour défendre des points de doctrine. La théologie était sa principale préoccupation, peut-être la seule. Et les paroissiens, qui ne comprenaient pas toujours ses sermons, les acceptaient volontiers comme preuve de son érudition. Mais enfin, on convenait en général au village que l'on pouvait attendre conseil et aide du presbytère, et que si les premiers étaient parfois un peu confus, les secondes faisaient rarement défaut. Pour le docteur Charles Epps, veuve de longue date, ce dîner était l'occasion de faire un repas excellent, de converser avec deux femmes charmantes et de se reposer un moment de la routine d'une clientèle rurale. Installé à Shotfleet depuis 30 ans, il connaissait assez la plupart de ses malades pour savoir exactement s'ils allaient vivre ou mourir. Au reste, il était persuadé que le médecin ne pouvait pas faire grand-chose pour influer sur la décision qu'il était sage de savoir quand mourir en provoquant le minimum de dérangement pour les autres et de détresse pour soi-même, et que nombre de progrès en médecine ne servaient à prolonger la vie pendant quelques mois pénibles que pour la gloire du praticien. Pourtant, il était moins bête et plus habile que Stephen Maxey le croyait, et ses malades affrontaient rarement la mort avant l'heure. Après avoir assisté Mrs. Maxey à la naissance de ses deux enfants, il était resté le médecin et l'ami du mari dans la mesure où le cerveau obscurci de Simon était encore capable de discerner ou d'apprécier l'amitié. Pour l'heure, il dégustait un soufflet au poulet avec l'air d'un homme qui a bien mérité son dîner et n'a pas la moindre intention de se laisser perturber par les humeurs des autres convives.